Lizzie présente Jeanne d'Arc, Vérités et légendes de Colette Beaune, lue par Marie-Ève Dufresne. Pour Priscille Aladjidi. Avant-propos. Il n'y a pas à l'origine de cet ouvrage de nécessité scientifique à proprement parler. Je ne propose pas de révéler sur Jeanne d'Arc des vérités cachées, je ne fais pas de contre-enquête. Ce livre audio est le fruit d'une expérience personnelle. L'historien et les médias, un malentendu. Il y a quelque temps, mes collègues spécialistes de Jeanne, Philippe Contamine, Olivier Bouzy, Françoise Michaud, Anne Curie et moi-même, avons été sollicités pour répondre à des questions dans le cadre d'un documentaire sur la vie de la Pucelle à diffuser sur Arte. Il ne nous est pas venu à l'idée de refuser. Après tout, la vocation de l'universitaire n'est pas de trouver pour trouver, mais de trouver pour dire aux autres, ses collègues, ses étudiants, ses lecteurs. Et Arte est la chaîne préférée des universitaires. Les interviews sont longues et se déroulent dans le cadre austère de la salle Labrousse de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, le seul endroit où l'on puisse filmer les manuscrits de la Bibliothèque du Roi conservés à l'étage supérieur. Les questions sont très traditionnelles, mais nous ne les choisissons pas. Nous ne sommes pas maîtres non plus de nos réponses, qui peuvent être coupées, accolées à une voix off qui les dément, ou à un argument auquel nous ne pouvons pas répondre, puisqu'on ne nous l'a pas soumis. Nous ne savons d'ailleurs pas que le journaliste Marcel Gay participe à l'émission. Un an se passe, le documentaire devient un docu-fiction, mais nous n'en savons rien. Nous ne le découvrons que 8 jours avant la diffusion, et trop tard, paraît-il, pour que des modifications soient possibles ou le débat organisé. Que faire? Il y a un côté comique à cette affaire. Nous avons servi de caution intellectuelle, indispensable mais négligeable, tous alignés dans l'obscurité verdâtre de notre chère bibliothèque, savants presque desséchés au milieu de nos livres, cherchant à nuancer nos propos, tandis que Monsieur Gay est filmé cheveux au vent, sur fond de vallée Mosane, déclinant à tout va des affirmations qui ne sont en fait que des hypothèses. D'un côté, l'immobilité, de l'autre, le mouvement. D'un côté, les universitaires ringards, et de l'autre, le journaliste aux prises avec le réel. L'image a ce pouvoir. Là-dessus surviennent les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, où le documentaire est projeté le 5 mai 2008. Nous en profitons pour dire notre désaccord absolu avec les théories de M. Gay, telles qu'elles apparaissent dans le film d'Arte. Auparavant est paru, signé de nous, une tribune dans un grand quotidien national, dont voici un extrait. Ces thèses, qui relèvent du coup médiatique, ne sont en effet ni nouvelles, ni fondées. Les théories survivalistes remontent à l'érudit Guillaume Vignier, qui, au XVIIe siècle, écrivait pour les descendants de la Dame des Armoises. Cette aventurière de haut vol a un parcours fort intéressant, mais elle n'est pas Jeanne d'Arc. Quant à la thèse de la naissance royale, elle découle des écrits plus tardifs d'un sous-préfet napoléonien. Rien qui n'ait déjà été plusieurs fois exposé et réfuté, archives à l'appui. Par ailleurs, Jeanne est bien née à Domrémy, dans une famille paysanne aisée, comme le prouvent les procès. Certes, elle n'est pas bergère, mais toutes les filles qui ne sont pas bergères ne sont pas pour autant des filles de roi. Sa mort sur le bûcher, le 30 mai 1431, est, elle aussi, parfaitement attestée par des mentions contemporaines. Il y a en histoire des faits sur lesquels on ne peut pas transiger. Il y a longtemps aussi qu'il n'y a pas de vérité officielle en matière d'histoire de Jeanne d'Arc. Son environnement religieux, sa culture, lettrée ou non, son rôle militaire ou politique, son refus du modèle féminin de son temps, sont autant de sujets qui ont été librement discutés et largement renouvelés ces dernières années. Donc, nous étions assez contents de nos réponses. Trop tôt. À la fin de la séance, Un journaliste de France 3 m'interviewe. Pour toucher le grand public, il faudrait bien, suggère-t-il, accepter quelques arrangements avec la vérité. C'est à ce moment-là que j'ai compris, grâce à lui, qu'il y avait un réel problème scientifique. Dans la société actuelle, peut-on accepter qu'il y ait en parallèle une histoire pour les élites et une autre pour le vulgaire? Là, je n'ai plus trouvé les choses drôles. Après tout, je saurais peut-être trouver les mots. J'en ai ouvert les livres de Gay et de bien d'autres mythographes. Question de méthode. Dans son livre écrit avec Roger Sanzig, L'affaire Jeanne d'Arc, Marcel Gay écrit « Nous sommes au Moyen-Âge, dans un monde irrationnel, fait d'un mélange de symboles, de magie, de religion, de secrets, de sorcellerie. Le mythographe n'aime guère le Moyen-Âge, époque où le surnaturel et le merveilleux seraient partout présents. Aujourd'hui, croit-il bon de préciser, aucune personne sensée ne croit plus à ces balivernes et la raison règne en maître. Il faudrait donc porter un regard neuf sur l'histoire de Jeanne d'Arc. En vertu de ce postulat, les historiens universitaires, concurrents explicites du mythographe, sont évacués, à l'exception du très laïque Anatole France. Avec trois citations, si l'on peut dire, je suis le médiéviste contemporain le plus utilisé. Une fois pour une chose que j'ai réellement écrite. Car, au Moyen-Âge, il est admis que Dieu peut intervenir dans la vie des hommes. Un peu plus loin, on m'attribue une erreur à propos de Marie Robine, qui ne m'appartient pas, une interversion de Fiche. Et enfin, je ne suis pas cité pour une présentation sceptique et probablement mienne du miracle qui sauve la vie au duc d'Alençon que notre mythographe reprend. Mais les universitaires ne sauraient, c'est évident, porter un regard critique sur Jeanne. Supposons qu'on puisse décider d'un trait de plume de ne pas tenir compte de 5 siècles de recherches savantes. Il faudrait au moins des sources d'époque. Or, elles sont partielles, allusives et la plupart du temps non référencées. Du côté Armagnac, seule la chronique de Perceval de Cagny et le mystère du siège d'Orléans seront réellement utilisés. Toutes les chroniques orléanaises seraient selon eux, en revanche, très discutables. À l'étranger, les chroniques Morosini et Vindeke sont à considérer avec beaucoup de prudence. Je dirais même que toutes les sources sont dans ce cas. Les chroniques bourguignonnes seraient des récits parfois sans grande valeur historique, ce qui n'empêche pas nos mythographes d'en reprendre toutes les conclusions et d'oublier complètement de tenir compte des textes armagnacs. À ces textes, on fait d'ailleurs subir des traitements curieux. Prenons le journal d'un bourgeois de Paris, que j'ai édité pour Lettres gothiques. Cette source bourguignonne essentielle suit, année après année, les événements entre 1409 et 1449. Jeanne avait 17 ans, devient ainsi dans l'affaire Jeanne d'Arc, elle avait 27 ans. La condamnation à la prison perpétuelle de 1431 devient, elle fut condamnée à 4 ans et demi de prison, ce qui permet de faire sortir Claude des armoises de sa boîte au début de 1436. La page du journal d'un bourgeois de Paris sur la fausse Jeanne fait l'objet d'un extraordinaire travail de ciseaux dans le film d'Arte. Une phrase sur deux du rédacteur médiéval est supprimée pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Le bourgeois, lui, croit que Jeanne est morte à Rouen et que Claude est un imposteur. Il n'a pas lu le livre, il n'a pas vu le film. Les sources en latin, pour lesquelles il n'existe pas de traduction, ou celles qui sont parues après le monumental travail de Quichera au milieu du XIXe siècle, sont très rarement prises en compte. Serait-il possible de mettre au rancard la vieille méthode historique et, comme l'écrit Marcel Gay, d'instruire l'affaire de Jeanne, déjà vieille de 5 siècles, comme s'il s'agissait d'un événement d'actualité, de substituer au procédé des historiens ceux des journalistes? Mais on ne peut abolir magiquement la distance historique entre le XVe et le XXIe siècle. Même parti d'un bon pas, nul journaliste de terrain ne saurait aujourd'hui prétendre interviewer les anciens combattants de la guerre de Cent Ans. Peut-on vraiment ne recourir qu'à l'examen des vieilles pierres et aux traditions orales pour faire la lumière sur Jeanne?